Alors, Blandine, on a entendu parler du cas de Ivan Sancho, un basse d'Espagne, en fait, qui sera jugé sur des preuves obtenues sous la torture. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, en fait, quelle était brièvement la cause défendue par ce jeune Basque?
En fait, Ivan faisait partie de groupes basques qui revendiquent l'indépendance au Pays basque. Il est venu se réfugier au Canada dans les années 2000, suite en fait à une situation politique générale de criminalisation des organisations, des journaux indépendants, des sources d'informations alternatives du Pays basque. Et en 2008, il a été arrêté au Canada et il a été, en fait, en 2007, il a été détenu pendant un an, donc jusqu'au 18 octobre 2008, il y a maintenant presque 3 ans dans quelques jours. Puis c'est en octobre 2008 qu'il a finalement été déporté du Canada sur une demande d'extradition de l'Espagne, alors que le comité de solidarité avec Yvan, donc de la Commission populaire, avait fait toutes sortes de mobilisations pour notamment mettre de l'avant le fait qu'il n'y avait aucune preuve contre lui et que les seules preuves contre lui des accusations qui lui étaient portées en Espagne sont des preuves qui ont été obtenues sous la torture. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une preuve obtenue sous la torture? C'est-à-dire que il y a un témoignage qui est soumis comme une preuve d'une femme qui aurait, dans ce témoignage-là, dit que Ivan Apolaça Sancho faisait partie de l'ETA, donc un groupe illégal en Espagne d'indépendance. Et quand cette femme a été citée à comparaître devant un tribunal, bien, elle a dit que c'était pas vrai et qu'elle avait été obligée de le dire pour arrêter d'être torturée. Et on sait que les cas de torture sont fréquents. C'est assez difficile à faire reconnaître, puisqu'évidemment, on a plus l'habitude de dire qu'en Amérique latine, en Irak, en Libye, ailleurs, très loin des intérêts économiques centraux, sont les endroits où ont lieu la torture. Et c'est difficile de faire reconnaître que l'Espagne, elle aussi, torture et qu'il y a une politique systématique de criminalisation envers les Basques et qu'il y a une politique qui permet, en fait, l'utilisation de la torture. Notamment, parmi cette politique, il y a la politique qu'on appelle, où ce que les prisonniers se retrouvent incommunicados, c'est-à-dire plusieurs jours sans qu'ils aient accès à un avocat ou à qui que ce soit. C'est-à-dire que dans cet espace-temps où est-ce que les gens peuvent être sans accusation ni rien, il y a un espace dans lequel peuvent avoir lieu des interrogatoires musclés, comme on dit pour qualifier la torture, et que très souvent les dénonciations qui sont faites par les prisonniers de ces cas de torture-là ne sont pas pris au sérieux par les cours. Et c'est d'ailleurs la cour, une cour européenne vient dans les derniers mois, dire que l'Espagne devait prendre plus au sérieux les allégations de torture qui étaient faites contre son système carcéral.
Et en quoi est-ce que, en fait, la déclaration qui a été effectuée sous menace d'être torturée, elle viole en fait la Convention des Nations Unies? Est-ce que tu pourrais m'en parler un peu là-dessus?
Oui, ben voilà, donc en fait, un peu tout le mécanisme de dénonciation, c'est le fait que des États comme l'État espagnol, comme le Canada, se targuent d'être d'aubin civilisé et de respecter les conventions internationales dont cette convention, qui est la Convention contre la torture. Quoi qu'on reconnaîtra que même au Canada, la notion d'être contre la torture est mise à mal, puisque notamment depuis 2001, une série de lois ont été passées qui autorisent les aveux forcés, c'est-à-dire d'obliger les gens à dire la vérité. On sait très bien, c'est quoi la façon d'obliger? Ben, c'est la forcer physiquement les gens, ce qui finit par être de la torture. Mais donc, les conventions qui sont supposées de respecter ces États qui finissent par trouver des façons de s'en sortir, comme la convention contre la torture, qui donc, d'un côté, dit ben, on ne peut pas torturer, et d'un autre dit il suffit pas de faire le vœu pieux de ne pas torturer, mais de prendre au sérieux les accusations de torture. Parce qu'en fait, c'est ça, l'Espagne ne se vante pas de torturer des prisonniers, c'est plus qu'elle nie. Toutes les demandes d'enquête sur des cas de torture sont vues comme des stratagèmes ou sont vues comme mal intentionnées et donc ne sont pas prises au sérieux. Pourtant, juste pour préciser que dans ce cas-là, en plus, dans le cas de Ivan, juste avant sa déportation, la Commission de l'immigration et du statut des réfugiés avait fini en mai 2008 par reconnaître que la confession là, qui est utilisée contre lui comme témoignage avait été obtenue sous torture. Donc, il y a une institution canadienne qui a reconnu que c'est des preuves sous torture. Pourtant, il a été extradé et, comme de fait, ça fait 3 ans qu'il est en attente de procès de détenu en Espagne et son procès aura lieu la semaine prochaine.
Alors, est-ce que tu as la date? Je crois que c'est le 17 octobre.
Alors, c'est les 17 et 18 octobre, lundi et mardi prochain. On va être plusieurs personnes ici du Canada. On va y aller en tant qu'observateurs et observatrices internationaux pour dire que ce n'est pas parce que Ivan a été déporté que le Canada doit se laver les mains de cette situation. C'est le Canada qui a jugé qu'il devait refuser le statut de réfugié à Ivan et l'envoyer en Espagne, où est-ce qu'il n'a toujours pas eu de procès. C'est-à-dire que il n'y a jamais aucune cour qui l'a condamné à quoi que ce soit. Ça fait en tout 4 ans que cette personne-là est en prison et elle n'a jamais, jamais, jamais été jugée coupable de quoi que ce soit. C'est ça qui se passe en ce moment. Alors, quand on parle de prisonniers politiques, c'est très souvent ça la situation. C'est des gens qui sont en attente de procès et qui sont dans des limbes juridiques assez incroyables.
Selon toi, qu'est-ce qu'on peut s'attendre, en fait, d'Ivan? Est-ce qu'il y a plusieurs années de prison qui s'offrent?
Oui, effectivement, ce qui pèse sur lui, c'est 30 ans de prison pour les accusations qu'il y a en ce moment. Après ça, une autre stratégie qui est utilisée souvent, c'est de refaire tomber de nouvelles accusations. Après ça, il y a quand même un espoir que le vent tourne, qui est comme des possibilités que les campagnes publiques aient fait leur effet, notamment à peine la semaine passée. Le même tribunal qui devra juger Ivan la semaine prochaine a fini par libérer Xavier Extraberia après 2 ans de prison provinciale parce qu'il avait fait des dénonciations sur une torture qu'il avait subie lui-même. Et ça a été finalement, après des mobilisations pour dénoncer les cas de torture qu'il avait vécues, il a fini par être reconnu non coupable. Mais même à ça, cette information-là ne se retrouve pas dans les plus grands journaux. Elle se retrouve dans des journaux basques, dans des journaux à petit tirage, mais dans les grands journaux, il y a une espèce de blackout total, de négation totale de la situation des Basques en Espagne.
Et j'imagine qu'il y a plusieurs manières qu'on peut appuyer Ivan dans ses démarches. Est-ce qu'il y a un contact ou...
Tout à fait. Ben, ici, c'est ça, il y a un comité de solidarité qui est lié à la Commission populaire, donc le réseau de la Commission populaire dont on parle souvent, puisqu'elle fait beaucoup de campagnes à Montréal. Alors, on peut aller voir le site web www.commissionpopulaire.org. Si on veut se rendre directement, on fait /FR/Sancho, S-A-N-C-H-O, pour Ivana Paolosa Sancho. Et surtout, on vous invite à venir en grand nombre à l'UQAM ce jeudi à 19h, donc le 13 octobre, au pavillon Paul Gérin Lajoie, pavillon N, au NM310. Donc, c'est le numéro du local qui se trouve au 1205 rue Saint-Denis. On y présentera L'écho du silence, un film de Chloé Germain-Terrien des Lucioles, d'une vingtaine de minutes. C'est un documentaire qui avait été fait il y a quelques années, sur le cas assez similaire de Gorka et Eduardo, deux prisonniers politiques basques qui, après avoir subi de la torture, ont fui au Québec pour chercher justice et qui ont finalement été déportés il y a quelques années. Et aussi un autre film réalisé par un groupe français sur la situation précise à ce moment-là d'Ivana Paolosa Sancho. Puis il y aura une discussion ensuite avec plusieurs personnes, notamment Marc-André Cyr, qui était membre du comité d'appui de Gorka et Eduardo à l'époque, et des membres du comité de soutien à Ivana Paolosa, dont son ex-avocat ici à Montréal.
Et si on veut soutenir financièrement les observateurs et les observatrices qui vont aller en cours justement pour ce procès-là, comment est-ce qu'on peut faire?
Donc, on peut soutenir en écrivant des lettres, en fait, en se rendant à l'adresse que je vous ai donnée, la Commission populaire /FR/Sancho. On peut trouver tout un contexte là, pour avoir plus d'informations. On invite les gens à envoyer des lettres de pression et les gens qui le peuvent à soutenir financièrement l'effort de la délégation de la Commission populaire qui va se rendre compte de la situation par elle-même en allant à Madrid la semaine prochaine.
Bien, merci beaucoup, Blandine, pour cette information importante. Je crois que ça va être important de poursuivre ça aussi dans les jours qui suivent.
Bien, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.